Alors notre passage dans la parole de Dieu ce soir, c'est dans l'épître aux Galates et au chapitre 5. Et nous allons lire à partir du verset 18 jusqu'à 22. Galates 5, 18-22. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Voilà notre Dieu, quand il a créé la terre, il a mis des arbres et chaque arbre portait une semence, une graine, hein, une semence. Et il l'a voulu comme ça que chaque arbre ou chaque plante puisse porter du fruit. Et ce fruit sort naturellement lorsque la vie de la plante est normale, lorsqu'elle est irriguée par l'eau, lorsqu'elle reçoit tout l'oxygène, tout le carbone, tout ce qui est nécessaire, la photosynthèse, l'arbre porte du fruit. Et ce qui est merveilleux, c'est que l'arbre porte beaucoup de fruits. Quand vous regardez certains arbres, hein, ils sont remplis, vous dites, mais comment il arrive même à supporter, hein, vous prenez des orangers avec ces gros fruits bien remplis, hein, c'est énorme, ou les pamplemoussiers, vous vous rendez compte de la taille des pamplemousses. Et Dieu a voulu que ces arbres portent du fruit. Et il veut que ses enfants, qui ont cru en lui, portent du fruit. Et c'est le sujet d'aujourd'hui, hein, le fruit de l'esprit. Le fruit du Saint-Esprit. Justement, ce fruit du Saint-Esprit, ce n'est pas le produit de nos efforts humains. Un fruit de l'Esprit, ça veut dire, c'est le Saint-Esprit qui le produit. Ce n'est pas nous qui le produisons. Les arbres ne sont pas là en train de se forcer à produire leurs fruits. Ils ne font pas des efforts particuliers. C'est tant que la sève coule, elle pousse jusqu'au bout des branches et finalement il sort une fleur et puis il sort un fruit. Tant que la sève coule, le fruit sort. Jésus a donné l'image du cep. Il a dit, vous, je suis le cep et vous êtes les sarments. Et nous sommes les branches, hein, le cep de vigne, nous sommes les branches et Dieu veut que nos branches portent du fruit. Et pour qu'elle porte du fruit, il faut que la sève coule du cep jusqu'aux branches, jusqu'aux sarments. Tant que la sève coule, le fruit va sortir. Il n'y aura pas besoin de faire des efforts humains particuliers. Ce n'est pas parce que je vais prier 30 heures d'affilée que j'aurai plus de fruits dans ma vie. Ce n'est pas parce que je vais passer 50 heures à donner des traités qu'il y aura plus d'âmes sauvées. Pourtant, on se dit, mais attends, il faut prier, il faut donner des traités ou évangéliser. Oui, mais attention, les efforts humains ne sont pas le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est quelque chose que Dieu produit en nous et qui sort, puisque le fruit est extérieur. Et à quoi servent les fruits dans le jardin d'Éden, par exemple? Lorsque Dieu a donné les fruits, c'était pour quoi faire? Pour nourrir l'homme, l'être humain, hein? C'était pour que les êtres humains qui étaient végétariens mangent les fruits de ces arbres. Et de la même façon, le fruit de l'esprit dans le chrétien, c'est pour les autres, principalement. C'est pour la gloire de Dieu et c'est pour le bienfait des autres, et on va le voir ensemble. Alors, ici, le fruit de l'esprit est opposé à autre chose dans ce passage qu'on a lu. Il est opposé à quoi? Aux œuvres de la chair. Donc, vous voyez, les efforts de la chair, et le fruit de l'esprit. Il y a vraiment une différence qui est marquée. Les œuvres, c'est des efforts qu'on fait, et ça, c'est souvent charnel. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit jamais faire d'efforts, hein, je ne dis pas ça. On va en reparler. Mais la chair fait des efforts et ce qu'elle donne, c'est charnel. Le fruit du Saint-Esprit, ça sort du chrétien. Lorsque le chrétien est irrigué, lorsque le chrétien reçoit la vie du Seigneur et que cette vie n'est pas empêchée de couler par le péché. Quelles sont les œuvres de la chair et ses résultats, ses fruits aussi, on peut dire, hein? Ben, là, il y a beaucoup de choses vraiment qui ne sont pas belles. Même il n'y en a aucune qui est belle. Hein? Il y a rien de bon là. La débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, etc. Il n'y a rien de bon. Et c'est Paul dans l'Épître aux Romains, il dit, rien n'est bon hein, dans ma chair. Ma chair, c'est quoi dans la Bible, la chair? Notre ancienne nature, notre nature héritée d'Adam et Ève, hein, notre nature humaine, non régénérée, non transformée par le Saint-Esprit. Donc, si je fais des choses par ma nature humaine, ça va donner quoi comme résultat? Ben, ces choses-là. La débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie. Pourquoi il y a de l'idolâtrie dans les églises, par exemple? Pourquoi l'église de Rome, par exemple, est devenue idolâtre en idolâtrant la Vierge, en idolâtrant les saints, en faisant des statues, des idoles partout? Parce qu'à un moment, certains chefs de cette église ont été motivés par la chair et non pas par l'Esprit de Dieu. Pourquoi un chrétien, d'un seul coup, va tomber dans la jalousie, la querelle? Parce qu'il ne va pas être gouverné par l'Esprit de Dieu, il va marcher par la chair. Et la chair, elle ne produit que ces choses-là. Elle ne sait pas produire des fruits spirituels. Elle ne peut pas. Elle en est incapable. Et c'est à nous de réaliser ça. Ma nature humaine, pécheresse, est incapable d'être spirituel. Je peux lui lire la Bible tous les jours, je peux lui dire, maintenant tu vas bien te comporter. Hein. On ne peut pas se raisonner ou se comporter sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous transforme. Il y a des gens qui ont essayé de se moraliser avec la religion. Ils ont dit, avec la religion, je vais arrêter la débauche, je vais arrêter les débordements, je vais bien me comporter, je vais avoir une morale chrétienne. Mais ces personnes-là, un moment, à l'intérieur, ça bout tellement, la chair veut tellement pécher. Et elle est retenue parce que l'homme lui dit, non, attention, hein, tu débordes pas, hein, qu'à un moment, ça explose. Et vous avez des chrétiens frustrés, hein, qui explosent, qui tombent dans des péchés, mais on dit, c'est pas possible, il est tombé dans ce péché, il a tué quelqu'un ou il a violé quelqu'un, ou les pédophiles, on dit, comment est-ce possible que quelqu'un qui s'appelle chrétien tombe dans ces choses? C'est parce qu'il ne s'est pas laissé gouverner par le Saint-Esprit. Il voulait être dirigé par la chair. La chair ne se maîtrise pas, elle meurt, elle doit mourir. La chair a été crucifiée, dit la Bible. Et le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu en nous, c'est lui qui va porter des nouveaux fruits à la place des œuvres de la chair. Par exemple, je pense à la sagesse. Il y a la sagesse d'en haut et la sagesse d'en bas. Il y a la sagesse de Dieu et la sagesse du diable. C'est Jacques qui nous le dit. Si vous avez votre Bible, on peut lire juste ce petit passage dans Jacques 3. Verset 13, lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous vantez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite elle est pacifique, elle est modérée, elle est conciliante, elle est pleine de miséricorde et de bons fruits. Elle est exempte de duplicité, elle n'a pas un double langage, un double visage, elle est authentique, elle est sincère, elle est droite. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Que va nous dire la sagesse du diable? Elle va dire « Eh, te laisse pas faire, hein? Venge-toi! Eh, te laisse pas marcher dessus, hein? C'est à toi de marcher sur l'autre si tu veux gagner. » Et ça, c'est la sagesse terrestre, diabolique. Écraser les autres, se venger, la violence. Hein? Il dit la sagesse d'en haut, elle est douce, elle est pacifique, elle est modérée, elle est conciliante, elle est miséricordieuse. Ou la sagesse d'en bas va dire eh, ne te laisse pas interdire des trucs, fais ce que tu veux, fais ce qui te plaît. C'est Pierre, à un moment, qui a été inspiré par la sagesse diabolique. Et c'est incroyable de penser que l'apôtre Pierre lui-même a été touché par cette mauvaise sagesse. Lorsque Jésus a raconté à ses disciples, vous savez, je vais bientôt être arrêté, les chefs religieux vont m'arrêter et me mettre à mort. Et Pierre a interrompu le Seigneur, dit, à Dieu ne plaise, tu ne seras pas mis à mort, Seigneur. Et Jésus dit, arrière de moi, Satan, tes pensées sont des pensées humaines, terrestres, charnelles, diaboliques. Et nous pouvons être pris dans les mêmes choses. La pensée de Dieu n'est pas notre pensée. Avec notre sagesse humaine, on va dire, bon, dans une situation comme ça, on fonce dedans. Hein, Et Dieu dit, non, c'est pas comme ça que j'avais vu les choses. Imaginez ces chrétiens hein, qui sont persécutés, si d'un seul coup, ils se disaient, maintenant, on va être pire que les terroristes musulmans qui nous tuent. On va faire pire qu'eux. On ne va pas les crucifier, on ne va pas les décapiter, on va les couper en quatre. Est-ce que c'est ça que Dieu demande? Non, Dieu ne demande pas la vengeance, il ne demande pas la violence ni la cruauté. Dieu a une autre façon de réagir. Et à nous de laisser cette sagesse nous guider, la sagesse d'en haut. Le fruit du Saint-Esprit est un fruit abondant. Dieu ne veut pas qu'un arbre soit stérile, il ne veut pas qu'un chrétien soit stérile. Il veut qu'on porte beaucoup de fruits. Et ça doit se manifester, ça doit être à la gloire de Dieu, et ça doit être bon, du bon fruit. Combien y a-t-il de grains dans la grappe là, de Galates 5, 22? Non. 9. 3 fois 3. Alors moi, quand j'ai lu, j'ai découvert pour la première fois, j'étais nouveau chrétien, l'Épître aux Galates, j'ai compté, j'ai trouvé 9. Et je me suis dit, mais pourquoi Dieu n'en a pas mis 7? Parce que d'habitude, le Seigneur, il fait les choses en 7. Parce que 7, c'est le chiffre de Dieu, le chiffre de la perfection. Pourquoi il a mis 9? Alors, je n'ai pas la réponse de Dieu là-dessus, mais une réponse, c'est qu'en fait, il y a 3 tiers là. Trois tierces, je ne sais pas comment dire, hein, et on va les voir un peu après. Vous avez remarqué que c'est le fruit de l'Esprit. Ça, c'est très important. C'est que lorsque le Saint-Esprit nous remplit, ce fruit sort comme une grappe. Tous les raisins sont là en même temps. Vous ne pouvez pas dire, et je ne peux pas dire, « Oh, Dieu m'a donné plein d'amour. Par contre, j'ai aucune patience. » Parce que si c'est le fruit de l'esprit, il y a l'amour et la patience dans le fruit. Donc, c'est pas normal. Oh, moi, je suis plein de joie, mais alors, vraiment, la bonté et tout ça, la bienveillance, j'arrive pas. Moi, je suis plutôt... Non, c'est pas possible. On peut pas avoir un grain et pas les autres. C'est une grappe. Tout doit être là. Et le Saint-Esprit ne fait pas un peu de joie et puis le lendemain, il vous donne un peu d'amour. Il donne tout en même temps. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qui est abondant. Dieu ne dit pas, écoute, cette semaine, on va travailler l'amour. Hein, je vais te donner un peu plus d'amour. La semaine prochaine, on va travailler la joie. Non, le Saint-Esprit, quand il nous remplit, nous donne l'amour, la joie, la paix, etc. Il donne tout. C'est le fruit de l'Esprit. Toutes ces vertus, si on peut les appeler comme ça, sont données ensemble. Et attention, c'est encore une fois le fruit de l'esprit, non pas de nos efforts, ni de notre religiosité, ni de notre Église. Ce n'est pas le fruit de l'Église. Ce n'est pas le fruit de la prière. Ce n'est pas le fruit du jeûne. Ce n'est pas le fruit de je ne sais pas quoi. C'est le fruit de l'esprit. Plus je suis rempli du Saint-Esprit, plus ce fruit va être abondant. Ce fruit, c'est l'esprit de Jésus-Christ. Bien sûr, plus je suis près de Christ, plus j'aime le Seigneur, plus j'obéis au Seigneur, plus ce fruit est abondant. Plus la sève, la vie de Dieu coule en moi, plus le fruit est beau. Hein, nous avons, au mariage de notre frère et notre sœur, nous avons été dans ce pays où il y a beaucoup de vignobles. Et là, on voit combien les vignerons taillent, 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 taillent pour que la vigne soit toute petite en apparence, mais que les fruits soient abondants. Parce que si on laisse pousser la vigne, ça va devenir un arbre ou je ne sais pas quoi, un buisson, mais les fruits vont être riquiqui. Pour que la vigne donne des bons raisins, il faut qu'elle soit taillée, pour que la sève pousse un maximum là-dedans, qu'elle soit vraiment remplie. Et nous devons aussi être remplis du Seigneur le plus possible. C'est pour ça que Jésus, en Jean 15 aussi, il a dit: celui qui porte du fruit, il l'émonde pour qu'il porte encore plus de fruits. Jésus avait sans doute travaillé à la vigne aussi, même s'il était charpentier. Il l'émonde. Donc Dieu nous émonde, Dieu enlève ce qui est de trop dans nos vies, ce qui est du péché, ce qui est inutile, ce qui est de notre ego, de notre chair, pour que l'esprit nous remplisse. Alors, 9 grains. Les 3 premiers, l'amour, la joie, la paix, ce sont des grâces de Dieu qui soutiennent notre vie chrétienne et notre vie. C'est l'amour de Dieu dans nos cœurs, la joie de Dieu, la joie du salut et la paix de Dieu. Ces 3 choses sont fondamentales dans la vie d'un chrétien. Si je n'ai pas l'amour de Dieu, la joie de Dieu, la paix de Dieu, je peux me demander si je suis vraiment au Seigneur. Peut-être que je n'ai pas le Saint-Esprit. Hein. Parce que si j'ai le Saint-Esprit, c'est les premières choses qui sont données en abondance: l'amour, la joie, la paix. L'amour de Dieu, c'est cet amour infini, gratuit. Dieu m'aime, pas parce que je suis merveilleux ou obéissant, il m'aime en tant que pécheur. Il m'a gracié, il m'a sauvé, il m'a sorti de mon péché, il m'a pardonné. Et son amour est là tous les jours, tous les matins. L'amour de Dieu est là. Même quand je désobéis, Dieu continue de m'aimer et il me parle, il m'appelle à revenir à lui, à me détourner du péché. C'est son amour éternel, son amour qui nous soutient, qui donne sans compter, un amour infini, comme un océan. C'est ce qui fait que la vie prend un autre sens quand on connaît le Seigneur, quand on dit Dieu m'aime d'un amour extraordinaire, inaltérable. La joie. Pour beaucoup, la joie, c'est quelque chose qu'ils ont une fois par an. Hein. Et le reste du temps, je suis dans la tristesse, je suis dans l'angoisse, je suis dans les soucis. Alors que la joie est un fruit de l'esprit aussi. La joie d'être sauvé déjà. Hein. Il y a une joie d'être sauvé. De dire, je suis sauvé, je vais au ciel. Hein, si je meurs, je sais où je vais ce soir parce que Christ a payé pour moi. La mort n'est plus ce sujet de tristesse. J'ai des soucis. Et alors, j'ai la vie éternelle. C'est plus fort que les soucis. J'ai des inquiétudes pour telle ou telle personne ou telle chose. Et alors, j'ai le Dieu avec moi, le grand Dieu qui est mon Père céleste. Pourquoi devrais-je m'inquiéter au-delà, sachant que je peux remettre ma vie à Dieu? On a vu, hein, recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Remets tes soucis, le Seigneur Jésus a dit, ne vous faites pas exagérément du souci, ça ne sert à rien. Lorsqu'on a des soucis, on doit les remettre à Dieu dans la prière. Il dit, faites part de tous vos besoins à Dieu. Et le but, c'est qu'on soit dans la joie et dans la paix pour marcher avec le Seigneur. C'est cette joie qui est la force. Hein. La joie du Seigneur, c'est notre force. Dans certaines religions où on demande les œuvres de la chair, hein, les gens ne sont pas très joyeux parce que on est toujours, D'abord, ils ne savent pas s'ils sont sauvés. On leur dit, si tu es persévérant jusqu'au bout de ta vie, peut-être que le Dieu voudra bien te pardonner, c'est même pas sûr. Alors là, ces gens-là sont dans la persévérance et ils ne sont jamais sûrs, ils se demandent si Dieu ne va pas un jour les envoyer en enfer ou les tuer. Et ils sont dans la crainte et ils n'ont pas de joie. Mais quand on est dans la foi en Jésus-Christ, on a cette joie. Le Seigneur m'a sauvé. La paix d'être pardonné par Dieu, la paix d'être sous la garde de Dieu. J'aime beaucoup le psaume 23 qui illustre vraiment ce que c'est la paix. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, me conduit dans les verts pâturages. C'est la paix de la brebis qui est sous la protection de son berger. Mais alors c'est un super berger là, parce que c'est un berger, vous n'avez rien à craindre, aucune bête sauvage, rien. Il va vous emmener toujours dans les meilleurs pâturages. Mais qui c'est ce bon berger? C'est notre Dieu. Il nous mène toujours dans les meilleurs pâturages. Il nous protège contre les bêtes sauvages. Il oint d'huile notre tête. Ma coupe déborde. Hein? Ça, c'est la paix d'être sous la garde du Seigneur. Ceux qui doivent se garder tout seuls ne sont jamais dans la paix. Ils sont toujours là. Le chrétien, il compte sur son Dieu. C'est la foi et la paix qui vient de la foi. Philippiens 4, 6 et 7. Confiez tous vos besoins à Dieu et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Le but du Seigneur, c'est que nos pensées et nos cœurs soient gardés en Jésus-Christ. C'est ça son but. Si on est tout le temps en train de dire, mais qu'est-ce que la chaise, elle a un problème, la voiture, elle a un problème, mon manteau, il a un problème. Si on est tout le temps en train de s'occuper des choses terrestres qui vont disparaître, on ne s'occupe plus du Seigneur Jésus-Christ et on est détourné de notre sens. Le chrétien doit penser aux choses spirituelles, éternelles. Alors on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, il faut s'occuper des choses matérielles, mais elles ne doivent pas prendre le dessus et devenir obsessionnel et nous faire oublier le Seigneur. La paix de Dieu, c'est ce qu'on a quand on a confié tout à Dieu. Voilà, Seigneur, je t'ai tout remis. Moi, j'ai fait ce que je pouvais. Je sais que toi, tu vas faire beaucoup. Maintenant, je veux vivre cette paix. Et il y a un côté, il faut l'accepter par la foi. Seigneur, j'accepte ta paix. J'accepte ta joie. J'accepte ton amour. Les trois grains suivants sont des grâces de Dieu aussi. La patience, la bonté et la bienveillance. Mais c'est des grâces de Dieu que nous transmettons aux autres. C'est la patience envers les autres, c'est la bonté envers les autres et c'est la bienveillance envers les autres. Donc les trois premiers, c'était tout ce que Dieu nous donne, tout ce qu'on a en Jésus-Christ, l'amour, la joie, la paix. Les trois suivants, c'est mon comportement, comment, ce que je peux donner aux autres. La patience. Ici, le mot, là, c'est la longanimité. Hein, c'est un mot long. Un long mot qu'on utilise rarement en français. Pourtant, c'est très beau. J'aime beaucoup être longanime. La longanimité, c'est la capacité à supporter longtemps les offenses. La capacité à supporter longtemps les offenses. La longanimité. C'est-à-dire, un coup, supportez, deux coups, vous supportez, trois coups, vous supportez, quatre coups, vous supportez. La longanimité, vous ne redonnez pas les coups dès que vous en recevez un. La patience, c'est une forme de patience très particulière, c'est la patience envers les personnes. Parce qu'il peut y avoir la patience dans des situations. Par exemple, voilà, on a prié pour avoir un appartement et j'ai dû attendre 3 ans. Et il m'a fallu beaucoup de patience. Mais ça, c'est une patience envers les êtres humains, la longanimité. Supporter les autres. Et ça, c'est un fruit de l'esprit. Parce que naturellement, on ne supporte pas beaucoup notre prochain. Même nos frères et sœurs, malheureusement. Et le Seigneur nous donne cette patience pour les aimer, pour leur pardonner, pour chercher le meilleur, alors que peut-être eux, ils ne s'intéressent pas à nous, pour prier pour eux. C'est un fruit surnaturel, un fruit spirituel, la longanimité, la patience. La bonté, chercher le bien pour les autres. Être motivé toujours par cet amour. Alors là, c'est lié à l'amour, hein, la bonté. Quand est-ce qu'on devient bon? C'est quand on a l'amour de Dieu qui nous remplit. Et là, tout ce qu'on a envie de faire, c'est du bien. On dit, quel bien je peux faire? Parce que si on n'est pas rempli de Dieu, de l'amour de Dieu, à quoi pense-t-on? À soi-même. Moi. Et les autres, en général, nous dérangent. Alors, quand ils sont utiles à moi, je les tolère. Et puis, quand ils sont plus utiles et qu'ils me dérangent, ah, laissez-moi tranquille. Ça, c'est l'égoïsme, l'égocentrisme. C'est le contraire du fruit de l'esprit. La bonté, c'est déborder de bien et de vouloir le bien, de réfléchir au bien. C'est-à-dire, comment je peux faire du bien? Comment je peux bénir cette personne? Ça aussi, c'est un fruit surnaturel. On ne l'a pas dans notre chair. Hein. Notre nature humaine ne cherche pas le bien des autres naturellement. Et puis la bienveillance, là, dans la Bible second, le vieux mot français, c'est la bénignité. Bon, c'est vrai qu'on n'utilise plus ce mot. Hein. La bénignité, c'est dans certaines versions encore. Voilà. Second, avant d'être révisé. C'est la disposition à aider les autres. C'est une disponibilité pour les autres. Toujours prêt à aider, à rendre service. Et c'est même ce désir d'aider par amour, là encore, hein, toujours motivé par l'amour de Dieu. Les trois derniers grains sont encore des grâces de Dieu, mais c'est par rapport à notre vie chrétienne, à notre relation avec Dieu, la foi, la douceur, la tempérance. Alors la foi, certains l'ont traduit « fidélité » pour que ça aille avec le thème. Le thème, c'est notre relation avec Dieu. Dieu veut qu'on soit fidèle. Dieu veut qu'on soit doux. Dieu veut qu'on soit maître de soi. La tempérance, être maître de soi. Pourquoi on peut traduire « fidélité » Parce que le mot grec, là, « foi » peut se traduire aussi « fidélité ». C'est la même racine, hein, « foi »,« fidélité ». La foi, c'est faire confiance en la fidélité de Dieu. Mais là, ce serait notre fidélité dans ce cas-là. Cette confiance en Dieu, cette obéissance fidèle. Parfois, on est trop guidé par nos sentiments, nos émotions. On dit, oh, aujourd'hui, je ne me sens pas bien. Je vais rien faire pour le Seigneur. Je vais juste me laisser aller. Le chrétien fidèle dit « Je ne me sens pas bien, mais je vais m'accrocher au Seigneur. Et je vais marcher avec lui, et il va me soutenir, il va être mon soutien. » La fidélité, c'est cette capacité hein, à continuer, à ne pas s'arrêter, à ne pas se laisser détourner. Un homme fidèle, hein, combien s'en trouve-t-il? Il n'y en a pas beaucoup. Et c'est une grande grâce, la fidélité. Et cette grâce nous est donnée par Dieu, par le Saint-Esprit. La douceur, là aussi il y a peu de douceur dans notre monde, hein. Et c'est plutôt chacun se tape dessus, hein. Mais dans le royaume de Dieu il y a la douceur. La douceur c'est aussi cette humilité, c'est-à-dire je ne monte pas sur mes ergots, chaque fois que quelqu'un me frôle ou ne dit pas la chose que je voulais entendre, mais je suis humble. Je suis doux, de la douceur de Christ. Christ était doux, ça ne veut pas dire qu'il était mou, ce n'est pas pareil. Il était doux, c'est-à-dire qu'il ne cherchait jamais la violence dans ses rapports avec les gens. Il ne cherchait pas à heurter. Il y a des personnes qui vivent en réaction permanente. On ne sait pas à quoi ils réagissent, mais ils sont toujours là, comme des chats, vous savez, qui vont vous griffer. Vous dites, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? La douceur. Je cherche à calmer les choses. Je cherche l'humilité. Je cherche comment je peux adoucir cette personne, comment je peux lui répondre avec une parole douce. Hein, une parole douce calme la fureur. C'est pas facile du tout. On a vraiment besoin du Saint-Esprit pour rester doux. Parce que nous, on réagit, on rentre dedans naturellement. La tempérance ou la maîtrise de soi, c'est la force de dire non au mal et non à sa chair. Donc notre chair veut nous entraîner sur les terrains déjà mentionnés, le débordement, la débauche, trop manger, trop boire, se quereller avec tout le monde, l'idolâtrie, l'immoralité. Et la maîtrise de soi, c'est dire non, je ne vais pas aller sur ce terrain-là, je veux être conduit par le Saint-Esprit. Là encore, naturellement, on n'a pas cette capacité. Le péché est trop fort, hein? Les tentations sont trop fortes. Mais le Saint-Esprit en nous nous donne la maîtrise de soi. Dieu a dit que quelqu'un qui a la maîtrise de soi, il est plus fort, hein, que tout le monde. Ce n'est pas, là la maîtrise, c'est pas ça qui est important, c'est la maîtrise de soi, se maîtriser. Ça, c'est une force dans la vie, de ne pas s'emporter, de ne pas se laisser aller. Alors, nous avons vu les 9 grains du fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. Maintenant, on peut se poser chacun la question. Est-ce que je manque d'amour? Est-ce que je me sens mal aimé? Est-ce que j'ai ce vide en moi qui fait je ne me sens pas aimé, je me sens seul, je me sens abandonné? Eh bien, le Seigneur veut nous donner son amour. Il l'a prouvé lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous. Et il s'est donné pour nous. Et s'il s'est donné à ce moment-là sur la croix, combien plus il veut nous donner son amour. Et l'amour de Dieu est infaillible, inflexible, il ne change pas, il est toujours là. Dieu nous aime. Et ce n'est pas qu'il nous aime un petit peu, il nous aime totalement, jusqu'à donner sa vie pour nous. On ne peut plus dire qu'on manque d'amour quand on a le Seigneur dans sa vie. C'est pas possible. Même si j'étais tout seul sur une île déserte et que tout le monde dans le monde entier me haïssait profondément, m'envoyant des lettres en disant on te hait, on ne veut plus te voir, reste sur ton île. Eh bien, je saurais que Dieu m'aime quand même. Et ça me soutiendrait. C'est vrai, des fois, on est vraiment seul, hein, dans la vie. Est-ce que vous manquez de joie? Est-ce que vous êtes tout le temps déprimé? Est-ce que la joie pour vous, c'est quelque chose vraiment de très rare? Le Saint-Esprit veut vous donner sa joie abondante. Pas besoin de boire de l'alcool pour avoir la joie du Seigneur. Est-ce que vous manquez de paix? Est-ce que vous êtes toujours dans la crainte, dans la peur, dans l'angoisse? Vous n'arrivez pas à avoir vraiment un moment paisible, vous avez du mal à dormir. Le Saint-Esprit veut vous donner sa paix. Surnaturel, au-dessus de toute intelligence, en abondance. Est-ce que vous manquez de patience envers les autres? Est-ce que vous êtes impitoyable? Est-ce que vous êtes impatient? Est-ce que vous avez du mal à pardonner? Dieu veut vous donner sa patience, sa longanimité pour pardonner ce que vous font les autres. Est-ce que vous manquez de douceur, de bonté? Est-ce que vous êtes de mauvaise humeur en permanence? Est-ce que quand on vous parle, on se dit, oh là là, est-ce qu'il va m'envoyer sur les roses ou pas? Mais le Seigneur veut vous donner sa bonté. Est-ce que vous êtes devenu égoïste, centré sur vous-même? Dieu veut vous donner sa bienveillance, sa bénignité, hein? Sa disposition à aider les autres. Est-ce que vous manquez de fidélité, vous abandonnez tout de suite, hein, dès qu'il y a un problème, hop, oh, j'arrête, c'est trop. Vous manquez de fidélité, le Seigneur veut vous donner sa fidélité en abondance. Est-ce que vous manquez d'humilité, vous êtes agressif, vous êtes orgueilleux, le Seigneur veut vous donner son humilité, sa douceur. Est-ce que vous manquez de maîtrise de soi? Est-ce que vous avez une addiction? Ça peut être l'alcool, ça peut être des pilules, la télévision, mauvais caractère. Il y a plein d'addictions, hein? Eh bien, le Seigneur veut nous en délivrer, veut nous donner la maîtrise de soi, qu'on soit sobre en toutes choses. Et c'est merveilleux de pouvoir venir au Seigneur, si on est chrétien, si on est son enfant, de dire, Seigneur, regarde tous les manquements dans ma vie, tous les manques, tous les domaines où je ne te ressemble pas. Produis en moi ce fruit, Seigneur. Produis en moi cet amour, cette joie, cette paix, etc. Vous pouvez mémoriser les 9 grains. Dire, Seigneur, prier, Seigneur, donne-moi cela. Produis-le en moi. Et il ne s'agit pas de dire, oh Seigneur, j'espère que tu voudras bien me les donner. Non, la foi dit, Seigneur, tu les as promis. Le fruit de l'esprit. Seigneur, je les accepte, je les prends, je les veux. Et je veux plein. Je veux des gros fruits. C'est les Israélites qui ont vu les raisins de Jéricho. Hein, ils ont dit qu'ils avaient des grappes énormes. Alors, est-ce qu'ils ont exagéré? Je ne sais pas. Mais en tout cas, dans la terre promise, il y avait des fruits merveilleux. Énormes. Il y a certains pays hein, où les fruits sont plus grands que dans nos contrées. Hein. Vous avez des tomates comme ça. Je ne sais pas. Des fruits énormes. Parce qu'il y a l'abondance de Dieu. Et Dieu veut nous donner des grands fruits pour notre vie chrétienne. Alors on va terminer par un mot de prière et ensuite les dernières strophes. Notre Père, merci parce que tu es généreux, tu es abondant. Tu ne donnes pas avec retenue, mais tu donnes tout. Tu as donné ta vie pour nous, pour nos péchés. Tu nous as donné la vie éternelle. Tu nous prépares une place au ciel avec toi. Tu veux qu'on soit co-héritier avec Jésus-Christ. Tu as fait de nous tes enfants. Tu nous as adoptés. Tu nous as lavés de tout péché. Et en plus de tout cela, tu nous as donné ton esprit qui demeure en nous. Et tu veux qu'il porte ce beau fruit dans nos cœurs. Seigneur, nous voulons lui laisser toute la place pour que le fruit de l'esprit se manifeste dans nos vies. Et que nous ne soyons pas des chrétiens stériles, charnels, terrestres, diaboliques, mais qu'on soit des chrétiens spirituels, de la sagesse d'en haut, et que les autres puissent voir la gloire de Dieu dans nos vies, que Dieu est riche et abondant, que Dieu est grand. Et merci Seigneur de produire cela par ta grâce et par le nom de Jésus-Christ. Amen.